Alors ce matin, comment est-ce que je suis arrivé à ce message? L'autre, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais, de quoi j'allais parler il n'y a pas très longtemps. Puis j'étais dans la cuisine et je regardais le jardin. Et tout à coup, c'est un gros corbeau sont venus picorer sous le mangeoir des oiseaux. Ah, je me suis dit, ils sont gonflés quand même ceux-là. Parce que d'habitude, ils sont prudents, ils s'approchent peu des maisons. Et là, c'est un gros malabar qui était là. Puis j'étais tellement surpris que j'en ai fait la remarque à Mireille. Puis j'ai dit, tu as vu ces corbeaux? C'est bizarre quand même qu'ils soient là. Et puis, petit à petit, on a commencé à parler de corbeaux dans la Bible. Le corbeau était un oiseau impur. Puis après, on est arrivé à Élie. Et puis tout à coup, ça m'a fait tilt. Pourquoi est-ce qu'Élie a accepté la nourriture d'un corbeau impur? Et je me suis dit, là, il y a quelque chose accroché. Et j'y suis parti. Alors, on va cheminer, vous allez cheminer avec moi pour savoir ce qui en est sorti. Et ce que je suis toujours moins émerveillé, c'est que quand vous prenez un passage dans la Bible, il n'y a pas besoin d'être long, 5, 6, 7 versets. Et c'est incroyable quand on commence à chercher, à méditer, à creuser ce qu'on arrive à en trouver. Voilà, alors je vais vous lire le passage, c'est dans le livre des Rois, le premier, chapitre 17, versets 1 à 6. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galat, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici. » Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est face au Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Vous voyez, les amis, quand on prend un texte de l'Ancien Testament, j'aime bien remettre le contexte, parce que des fois, on est un peu perdu. Alors, c'est dans les rois. Les livres des rois racontent la succession des rois qui ont suivi le schisme suite au décès de Salomon. Vous savez que la population, le peuple d'Israël, pour imiter les autres nations, avait demandé à l'Éternel d'avoir un roi. L'Éternel n'était pas d'accord, vraiment, mais il a autorisé le peuple d'Israël à avoir un roi. Le premier fut Saül. Ce n'était pas terrible, il y a eu bien des problèmes. Et le deuxième fut David, qui était un homme au cœur de Dieu. Et le troisième fut Salomon, qui est considéré comme très sage et qui construisit le temple de Jérusalem. Et si Salomon a été consacré au Seigneur au début de sa vie, à la fin de sa vie, il a épousé passablement de femmes étrangères et il a commencé aussi à adorer les idoles sur les hauteurs. Et le Seigneur s'est irrité contre lui et lui a dit « Parce que tu es le fils de Salomon, tu garderas ton royaume, mais à ta mort, ton royaume sera divisé. Parce que tu m'as renié. » Et c'est ce qui s'est passé. À la mort de Salomon, il y a eu un schisme dans le royaume d'Israël. Il y a eu le royaume de Juda qui était composé de deux tribus, de Juda et de Benjamin, et le royaume d'Israël qui était composé des 10 autres tribus. Le premier roi du royaume de Juda s'appelle Roboam et le premier roi du royaume d'Israël s'appelait Jéroboam. Et nous sommes dans la tribu, dans le royaume d'Israël, dans notre texte. Ça, c'est vraiment global. Mais depuis que Jéroboam est venu roi sur ce royaume d'Israël, il y a une succession de rois et ils ont tous été pratiquement adorés, ces puissances diaboliques sur les hauteurs des Baals et d'Astarté, ce qui irrita considérablement l'Éternel, et c'est pour ça que toute cette succession de rois fit que l'Éternel était furax contre eux, et il envoya Élie pour confronter Akab. Achab, qui était un des pires, puisqu'il est dit dans la Bible, et Achab, fils d'Ormi, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas triste avant, mais alors là, c'était déjà pas mal. Ce roi traite à l'Éternel perpétua un culte impur qui était un mélange d'idolâtrie et d'enseignement de Moïse qui avait été institué par le premier roi Jéroboam. Et comme si cela ne suffisait pas, il a épousé Jézabel. Alors Jézabel, c'est une princesse phénicienne qui était fille du roi de Tyr et de Sidon. Et soit dit en passant, ce mariage-là était interdit par la loi. On n'avait pas le droit d'épouser des femmes étrangères. Mais alors cette Jézabel, elle était une adoratrice et une militante du dieu Baal, une adoratrice et militante de la déesse Astarté. En plus, elle était sans scrupule et pour couronner le tout, criminelle. Alors voilà, elle avait une énorme influence sur son mari Achab, qui n'a pas eu, si vous voulez, l'autorité nécessaire aussi pour la freiner. Quand on lit l'Ancien Testament, on est souvent confronté, quand on lit l'histoire d'Israël, avec ses divinités, ses Baals et ses Astartés. Et je profite juste de faire une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Parce qu'on en parle souvent, et c'est parce que le peuple d'Israël était toujours attiré par ces cultes idolâtres, parce que derrière ce culte idolâtre, il y avait quand même une puissance démoniaque qui était adorée, que l'Éternel s'irrita et souvent leur fit perdre des batailles militaires, et ce fut aussi la cause de leur déportation à Babylone et en Assyrie. Les Baals étaient des dieux adorés au Moyen-Orient. Et en particulier aussi, bien sûr, dans le pays de Canaan, pays, comme vous le savez, que Dieu a donné à Israël. Le nom Baal veut dire maître ou propriétaire. Mais généralement, Baal désignait un dieu bien particulier. C'est une puissance bien particulière derrière ce dieu Baal. Baal désignait alors le dieu universel de la fertilité et qui portait alors le titre, c'est intéressant, de prince. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, de prince seigneur de la terre, et aussi celui de seigneur de la pluie et de la rosée, les deux formes d'humidité indispensables pour la fertilité d'un pays. La déesse Astarté était l'élément féminin de ce couple suprême qu'elle formait avec Baal. Elle fut adorée dans des variantes un peu particulières, mais elle était aussi reconnue comme la déesse de la fertilité et du sol, et du mystérieux épanouissement de la vie sous toutes ses formes. À ce titre, elle fut considérée comme déesse des récoltes, et puis déesse et mère du genre humain en présidant aux destinées de chacun. C'est pas juste ça. Voilà. Et puis, après ce culte terrestre d'Astarté, qui était en somme une déesse de la fertilité et une déesse du genre humain, qui était terrestre, devient supraterrestre. Elle devint alors à la fois Vénus, puis la Lune, pour être considérée après et adorée comme une déesse vierge, puis après considérée et adorée comme une déesse mère. C'est intéressant. Pour être finalement vénérée comme la reine du ciel. Et cette reine du ciel, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le livre de Jérémie, et au chapitre 44, vous allez avoir, il va être cité quatre fois, on parle de cette reine du ciel dans Jérémie. Le culte idolâtre d'Astarté et de Baal était caractérisé par deux aspects extrêmement condamnables. Le premier, c'était la prostitution. Pendant les cultes, il y avait des déesses et il y avait des qui étaient sur l'autel, et c'était une débauche de prostitution. Et d'autre part, il y avait des sacrifices humains et aussi des holocaustes qui étaient des sacrifices d'enfants. Alors, c'était juste pour vous montrer, pour vous donner un aspect. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire ma prédication sur eux, mais c'était pour vous donner ça. Et c'est alors que vous pouvez imaginer, quand je vous dis ça, quand on se rappelle le verset, que du temps d'Achab, tout ce qui avait été fait jusqu'avant n'était pas aussi terrible qu'à ce moment-là. Donc cette apostasie du peuple d'Israël au moment d'Akab était à son apogée. C'est alors que Dieu envoie Élie pour confirmer et pour confronter Akab et sa femme Jézabel. Élie, le prophète, rentre brusquement en scène. Il est important de remarquer qu'à travers l'histoire, chaque fois que Dieu envoie un prophète confronter les dirigeants du pays, c'est parce que le peuple et le pays étaient tombés dans une apostasie totale. Il y a toujours eu des prophètes à ce moment-là. Quand les lois et les institutions instaurées par Dieu sont bafouées et ridiculisées, alors Dieu lève un homme, son porte-parole, ce qu'on appelle un prophète, et Élie fut l'un d'eux. Élie est un personnage important dans la Bible. On n'en a pas parlé beaucoup, si on considère le nombre de pages de l'Ancien Testament, on n'en parle pas beaucoup. Mais il est extrêmement important et c'est un des grands prophètes entre Moïse et Jean-Baptiste. Élie était connu dans la région de Tchibé et certainement aimé et méprisé par les uns et méprisé par les autres. C'est un petit peu comme nous maintenant, c'est toujours la même chose. Quand vous suivez où vous trouvez et puis que vous commencez à dire que vous êtes chrétien et puis que vous, voilà ce que ça implique et voilà ce que vous pensez, bien vous allez être méprisé et ridiculisé par les uns et j'espère aimé et compris par les autres, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Jacques, dans son épître, le demi-frère de Jésus, nous en donne un peu plus d'éclaircissement sur Élie. Il est dit, Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, donc il était comme nous, et il pria avec insistance qu'il ne plût pas et qu'il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et demi. Ce qu'on retient de ce verset, c'est qu'Élie était donc un homme de prière, c'était un intercesseur, il répondait aux critères selon ce magnifique psaume, et j'aime ce verset 14 du psaume 14, « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Et Élie fut celui-là. Il était intelligent et il cherchait Dieu. Et Dieu l'a choisi. En effet, pour pouvoir demander que la sécheresse frappe son propre pays, il fallait qu'Élie soit vraiment près du cœur de Dieu. Il fallait qu'Élie ait cherché cette relation avec Dieu et qu'il sache faire taire ses sentiments, faire taire sa renommée en se disant « Je fais la volonté de Dieu, Dieu me pousse à le faire, j'y vais. » Il a fallu que le Saint-Esprit s'empare de lui pour pouvoir dire cette terrible prière contre son pays. Et plus loin dans le livre des Rois, il y a encore une remarque intéressante sur Élie. Il est dit, « Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tchibite, « Lève-toi et monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. » Ce verset révèle que l'ange de l'Éternel accompagnait Élie. Et dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. Généralement, c'est Jésus-Christ lui-même, l'ange de l'Éternel. Donc, c'est Dieu directement qui parle à Élie. D'ailleurs, comme il le fait généralement à tous ses prophètes, comme le dit Amos, « En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, ces paroles de prophètes sont vraiment des paroles que Dieu adresse au peuple. Mais continuons notre voyage. Nous avons mentionné que le prophète Élie avait un ministère reconnu parce que quand il arrive vers Achab, il lui dit tout de suite, il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je prie qu'il y en ait de nouveau. Donc ça veut dire qu'avant, Élie avait certainement dû remonter les bretelles plusieurs fois à Achab pour qu'il change d'attitude. Parce que dans les messages prophétiques, ces messages étaient toujours conditionnel. Le prophète arrivait et il disait « Repentez-vous, changez vos mauvaises voies, revenez à l'Éternel Et l'Éternel aura compassion de vous, et l'Éternel vous pardonnera. Il y avait toujours cet espoir de changement. Mais là, quand Élie arrive vers Akab, il lui dit tout de suite, paf, il n'y aura plus de pluie. Donc, ça nous prouve que Élie était déjà connu dans la région, et quand la Bible nous parle, elle parle tout de suite du jugement et de la sanction qui allait tomber sur le peuple d'Israël. Donc, Élie était connu. Cette sécheresse promulguée par Élie, elle est catastrophique. C'est catastrophique une sécheresse. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, c'est toujours catastrophique. Mais il y avait deux raisons. La première, elle ridiculisait les soi-disant pouvoirs du dieu Baal, qui était considéré comme le seigneur de la pluie et de la rosée. Alors ça, c'était pour les confronter. Quand vous voyez, les prêtres de Baal font l'annonce du ventre pour qu'il pleuve, mais il ne pleut pas. Donc l'Éternel est plus puissant qu'eux. Et la deuxième raison, c'était que affirmer l'autorité de l'Éternel, qu'on ne se moque pas de l'Éternel indéfiniment, et puis qu'un moment, quand la coupe est pleine, eh bien, l'heure de rendre des comptes. Et on en était là avec le peuple d'Israël. Parce que l'absence de l'eau à cette époque-là était catastrophique. Il y avait du bétail qui devait manger des fourrages, et puis il fallait bien manger des céréales. Si rien ne pousse, eh bien, le cheptel meurt, et finalement les personnes avec, après. Donc Élie était porteur d'une terrible nouvelle. Et on peut se demander pourquoi Akab l'a laissé partir. Parce que moi, si on m'avait dit ça, j'ai dit « Ok, alors ça, ce que tu repris, tu vas rester là à disposition, puis on va regarder ça. » Mais non, il l'a laissé repartir. Je pense qu'il a pris à la légère, il n'a pas cru. Et quand la sécheresse s'est vraiment installée sur le pays, il a cherché Élie, mais l'Éternel lui avait dit, hey, « Élie, tu vas te cacher dans le torrent de guérite. » L'Éternel, quand on joue à cache-cache avec Dieu, on perd. Donc, Akab avait demandé à ses serviteurs d'aller partout pour chercher Élie, mais bien sûr qu'ils ne le trouvèrent pas. Et ça, c'est intéressant. Il est dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. » Élie est certain de l'origine de ses paroles. Il a une révélation. La parole reçue est précise, riche et vérifiable. Puis Dieu donne un ordre. « Va, assorti d'une promesse, je te nourrirai. » Élie, en retour, écoute et par la foi obéit. C'est intéressant. Et ça, mes amis, c'est toujours pareil aujourd'hui. La foi vient d'une révélation. Nous sommes touchés par la grâce de Dieu. On est tout feu, tout flamme. Au début, waouh, voilà. Et puis après, cette foi, elle a besoin d'être testée. Alors Dieu nous donne un commandement, un ordre. Quelque chose à faire. On se dit, ça, on y va, on n'y va pas. Et puis, assorti d'une promesse. Et puis, si on obéit, eh bien, on se met en mouvement. Et la foi nous met en mouvement. Nous ne sommes pas là pour rester statiques, béats. Nous sommes là pour bouger. Et c'est ce qu'a fait Élie. Élie, il est parti au torrent de Guérit. Il est parti dans un lieu reculé, encaissé, sans hésiter, il accepte de quitter son lieu où il vivait, de quitter ses relations. Peut-être qu'il avait un début de notoriété déjà, Stélie. Il devait avoir un caractère bien trempé, de toute façon. Ça, c'est sûr que ça ne devait pas être un doux. Et donc, il était connu. Et puis, en courant le risque de se dire, mais finalement, Stélie, t'as vu ça? Il prie, puis il se taille. Il n'assume pas ses conséquences. C'était quand même un original, ce mec-là. C'est un peu heureux. Mais qu'est-ce qu'on a pu le suivre? Quelle bête nous étions. Ça, c'est les rumeurs. Ça va extrêmement vite dès que quelque chose ne passe pas comme on veut. Et il est envoyé dans un torrent, dans un lieu tout à fait particulier et reculé, pour être face à face avec Dieu. Et ça, c'est intéressant. Face à face avec Dieu. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, vous l'avez compris, c'est pour que protéger Élie de ses contemporains. Parce que quand les choses vont mal, il y a toujours un bouc émissaire. Et dans le cas présent, c'est l'idéal, c'est lui. Donc la fonction du prophète n'était pas facile à cette époque, parce que quand on allait confronter les puissants et leur dire maintenant, vous changez de direction autrement, voilà ce qui va se passer, eh bien, il y en a bien qui ont perdu leur vie en disant ça. Et c'est pour ça que Dieu met à part Élie pour le protéger. Mais quand vous regardez dans la Bible, c'est intéressant, tous ces gens qui ont eu une histoire, qui ont été des serviteurs de Dieu, à un moment donné, ils ont tous fui. Ils sont tous dû fuir à un moment donné, pas tous, mais beaucoup, pour être à un moment donné face à face avec Dieu. Regardez par exemple Moïse. Moïse, quand il a tué l'Égyptien, et puis qu'il a dû partir par peur des représailles, il est parti d'autre pays, Madian. Là, il a eu le temps de réfléchir et d'être en face à face avec Dieu. Pensez aussi à David quand il a fui devant Absalom. Pensez à Jacob quand il a fui devant Ésaü. Et puis qui se lamentait, et puis qui ne savait pas comment il allait faire, et puis qui criait à Dieu. Il était en face à face avec Dieu. Même Jésus a fui quand il était bébé, parce qu'on a averti Joseph et Marie qu'il fallait qu'ils partent en Égypte, parce qu'Élie voulait, parce que Hérode voulait tuer tous les bébés, voulait le tuer. Donc, tout le monde, à un moment donné, beaucoup ont eu dans leur vie un moment où ils ont eu un face à face avec Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin d'un torrent de guérite. Nous aussi, nous avons besoin, à un moment donné, de se retirer face à face avec Dieu. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de nous ressourcer auprès de lui. Parce que, à l'heure actuelle, quand vous arrivez avec le message de la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, suivant vous arrivez, dans un monde humaniste et égoïste, bien, je peux vous garantir que ce n'est pas la bonne nouvelle pour eux. C'est un message rétrograde, étroit. 1012 arguments pour vous détruire et vous descendre en flèche. Qu'on est dans notre temps, que ci et que ça. Donc on a besoin de l'avoir en face à face avec Dieu, d'avoir cette protection du sang de Jésus, d'avoir cette protection de savoir qu'il est avec nous. Et on peut, dans nos temps de superactivité où on trouve toutes les excuses pour ne pas prier parce qu'on a tellement de choses à faire, il est important de reprendre du temps, d'aller dans le torrent de guérite pour reprendre nos forces. La deuxième raison pour laquelle Élie, à mon avis, est envoyé dans le torrent de guérite, c'est pour lutter contre le moi-je. Et là, les amis, personne n'est à l'abri. Quand vous commencez à prier, et puis que vous voyez qu'à travers vous, le Seigneur agit, et puis que vous allez voir qu'à travers vous, il y a des miracles, et qu'à travers vous, des personnes sont guéries, la tentation est grande de prendre une partie de la gloire qui est réservée à l'Éternel seul, pour vous l'approprier. Comme je suis quand même un type bien. Hein? Parce que moi, quand je prie, les gens sont guéris. Non. Tu obéis à Dieu, et puis si Dieu choisit de te prendre, tu seras guéri. Mais là, on a besoin de temps en temps de se retrouver aussi face à face pour se mettre au bon niveau. Pour pas que notre orgueil... Parce que notre orgueil n'a de cesse de vouloir fleurir. Il n'a de cesse de vouloir prendre la place. Et si vous commencez à obstruer vos canaux par de l'orgueil... Eh bien, le Saint-Esprit passe plus. Donc, c'est bien, c'est pas compliqué. C'est l'histoire des sarments. Hein. Voilà. Donc, on a besoin d'une relation personnelle et constante avec Dieu. Et la troisième raison que j'ai trouvée pour avoir envoyé Élie dans le détroit de guérite, c'est que, finalement, Élie a dû apprendre à faire 100% confiance à Dieu. Sa dépendance, 100% à Dieu pour sa survie, non seulement spirituelle et autre, pour nourrir sa foi, mais aussi tout simplement physique, parce que c'est là qu'il allait être nourri. Et puis là, je trouve quand même que Dieu est plein d'humour, hein, parce que quand il est dit, et tout à coup il a dû partir parce que le torrent était à sec. Ça, je trouve magnifique. Donc, Élie est une victime collatérale de sa prière. C'est parce qu'il a prié qu'il y a eu la sécheresse, que le torrent était à sec, et puis qu'il a dû se tirer. Donc c'est quand même marrant ça. Et c'est pour ça que vous connaissez la suite, vous avez certainement entendu parler de la veuve de Sarepta. C'est pour ça qu'après Élie part à Sarepta, qui est un peu plus loin, à Sidon, qui a aussi de la sécheresse, la même chose, mais qui rencontre cette veuve, et que vous savez que l'huile et la farine n'ont jamais tari jusqu'à ce que la pluie arrive. Donc c'était le même principe, mais au lieu d'être au torrent de Kérit, ben c'était à Sarepta. Mais j'ai trouvé marrant que en tout cas, sa prière avait été efficace, puisque ça avait même tari le torrent qui était censé l'abreuver. Alors, Dieu a été fidèle dans sa promesse. Pourquoi ? Parce que Élie a obéi et a cru à la promesse de Dieu. Et puis là, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Voyez-vous, il y a des fois des textes qui pivotent autour de petites choses. Et je vais vous lire c'est la moitié d'un verset. « Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, pas ailleurs, pas là-bas, mais là, au torrent de Kérit, là où je veux que tu sois. » C'est un autre grand principe que nous devons retenir, c'est quand nous sommes là où Dieu nous veut, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand nous sommes là où Dieu nous veut, que Dieu pourvoit selon nos besoins, selon la richesse de sa gloire. C'est parce que nous sommes là et que nous avons obéi où Dieu nous veut, que Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires, vous connaissez le psaume 23, et que nous pouvons dire comme David, je ne manquerai de rien. C'est parce que nous sommes là. Et c'est quand Élie fut là qu'il fut au bénéfice des provisions divines. Et quand les corbeaux sont arrivés, eh bien Élie était à l'endroit où les corbeaux sont arrivés. Si Élie avait été ailleurs, il n'aurait pas été nourri. C'était là qu'il devait se rendre. Donc il ne suffisait pas de partir. Il fallait encore se rendre à l'endroit indiqué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Élie a fait. Et si on peut extrapoler cette idée, on peut le dire pour nous ça aussi, c'est quand nous sommes là, en face de Jésus-Christ, en face de Dieu, que nous avons cette relation vivante avec lui. C'est quand nous sommes là, c'est pas quand nous sommes ailleurs, c'est quand nous sommes là, en prière avec lui, que nous avons cette relation. C'était la même chose pour le peuple juif dans le désert. Quand ils suivaient la nuée pendant 40 ans, ils ont suivi. S'ils étaient partis à gauche ou à droite, ils auraient été morts. Ils seraient morts. Pourquoi ? Parce que c'est où il y avait la nuée qu'il y avait la manne. Où il n'y avait pas la nuée, il n'y avait pas la manne. Donc, ils étaient obligés de suivre. Mais dans notre texte, la manne ne vient pas du... Elle vient bien du ciel, mais pas la même chose. Elle est apportée par les airs. Alors ça, je trouve ça magnifique. Livraison à domicile, 7 jours sur 7, Shabbat compris, gratos en plus. Je me lève le matin, paf, le déjeuner. Je vais me coucher le soir, juste avant, un petit relevé pour ne pas dormir l'estomac vide. C'est quand même le pied, ça c'est bon. Et je crois que je peux dire sans me tromper que ça a été le premier pont aérien humanitaire de l'histoire. Alors ça, il a innové là. C'est incroyable quand même, quand on imagine que le Seigneur envoie ses corbeaux pour nourrir Élie. Et puis il y a aussi une chose qui m'a interpellé. Vous voyez, on parle du désert, on dit toujours le Seigneur a nourri plusieurs millions de juifs dans le désert par la manne, patati patata, il a tout mis en œuvre. Oui, mais il a aussi tout mis en œuvre pour une personne. Alors ne dites jamais, oh mais moi ça vaut pas la peine, je suis tout seul. Si c'est vous que Dieu a choisi et que vous êtes là, Dieu mettra tout en place pour que ça marche pour vous, même si vous êtes tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 millions de personnes derrière. Vous êtes seul, Dieu pourvoit. Mais voilà, il y a quand même un petit problème là, parce que c'est bien joli, mais voici que Lévitique nous dit, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas l'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers, le milan, l'autour et tout ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces. Et voyez-vous, ça c'est pas anodin. Parce que pour un homme comme Élie, comme pour un homme de foi, qui a veillé certainement scrupuleusement toute sa vie, depuis toujours, à rester pur, il ne faut pas oublier que le corbeau est un charognard qui se nourrit, qui traîne au milieu des cadavres de toutes sortes. Et la loi prévoyait que si quelqu'un touche un cadavre, celui d'un être humain, quel qu'il soit, il sera impur pendant 7 jours. Donc, théoriquement, d'après la loi, Élie n'aurait jamais dû toucher cette nourriture. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Pas du tout. Nous voyons pourtant qu'Élie n'hésite pas à manger du tout et que les corbeaux qui lui apportent cette nourriture, apparemment, il n'hésite pas à manger ces aliments que les corbeaux lui apportent. Et je pense que cette attitude n'est possible que parce, comme nous dit le texte, Élie était près du cœur de Dieu. L'Éternel est vivant, dit-il, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Si l'Éternel est vivant, j'obéirai à l'Éternel. Tout est là et tout est dit. Mais ce n'est pas si facile. J'imagine une plaidoirie que quelqu'un qui accuse Élie et puis lui dit « Mais toi qui es prophète, t'es rigolo, t'as mangé de la nourriture impure. » Que va lui répondre Élie? Mais je réfléchissais un peu, je pourrais dire « Oui, mais bien sûr » aurait-il dit. « Je connais les lois de pureté que j'observe scrupuleusement depuis ma jeunesse et j'ai pris soin de ne jamais les transgresser. » C'est Dieu qui les a instituées et c'est important pour moi et j'y suis resté fidèle et rien ne me ferait dévier. Cependant, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant qui tient toutes choses entre ses mains. La loi de Dieu déclare impur ce qu'il a décidé. Il avait décidé que les corbeaux étaient impurs. La loi de Dieu déclare impur ce qu'il a décidé. Mais le Dieu de la loi me porte au-delà. Le Dieu de la loi m'entraîne à ne plus considérer comme impur ce que désormais il considère comme pur. Waouh ! On est en mouvement, les amis. Et on a la même chose qu'on retrouve dans Actes, quand l'apôtre Pierre est confronté par une vision juste avant que les disciples de Corneille viennent sonner à sa porte pour qu'il aille évangéliser les gentils, qui était quelque chose qui sortait, qui était inimaginable pour un juif de l'époque. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu « Pierre vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, 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 certainement pas. « Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Waouh, je trouve fort ça. Ce que nous devons comprendre de ces expériences d'Élie et de Pierre, c'est que l'attachement aveugle et inconditionnel à une certaine parole donnée un jour, dans un contexte donné en arrière, peut devenir nuisible ou plus du tout approprié pour aujourd'hui. Si Élie avait été resté fixé sur son article de loi et avait refusé de manger ce que les corbeaux lui apportaient, lui qui avait déclaré avant « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant » n'aurait plus jamais pu le dire ça. Il aurait dû dire « L'Éternel qui est en devant moi est vivant. » Parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui décide la vérité. C'est plus l'Éternel. Donc, vous avez bien compris que là, on est dans les questions de l'égalisme qui est ici sous-jacente. Nous avons besoin d'une foi et d'une fidélité proche de la parole et surtout proche du cœur de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas statique, elle bouge. Bien sûr, Dieu ne change pas. Il le dit dans Malachie, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Cependant, Dieu nous donne une révélation progressive. Et le fait que la vérité est en constant mouvement, elle n'est pas figée. C'est une vérité vivifiante. Un exemple. Quand les scribes et les pharisiens sont arrivés vers Jésus avec la femme adultère, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire d'après la loi? La loi condamnait cette femme à être lapidée. Résultat du match, après la confrontation avec Jésus, la femme est pardonnée et les accusateurs repartent penauds. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a une révélation différente. Pourtant, Dieu reste Dieu. Le cœur de la loi et la sagesse de Dieu ne peuvent pas être fossilisés. Voyez-vous, je veux le dire autrement. Il y a un temps où on a gravé les lois dans des tablettes de pierre. C'est quand Dieu donna les 10 commandements à Moïse. C'était nécessaire. Il fallait ça pour qu'on ait conscience du péché. Il fallait ça pour déjà percevoir dans le futur l'avenue du Christ. Mais ces tablettes de loi et ces articles, ça a été pour un temps. Il y a eu un autre temps qui a été envahi par l'amour de Dieu quand Jésus est venu mourir et ressusciter pour nous. C'est un autre temps. Et pourtant, c'est le même Dieu. Il y a une progression progressive de la vérité. On n'est pas figé. Allons de l'avant. C'est un principe. Dieu est un Dieu des choses nouvelles. Il est un Dieu en mouvement qui se renouvelle constamment dans son expression. C'est pour ça qu'il est important de s'appuyer sur sa parole et de chercher son cœur. Et on parle beaucoup de choses nouvelles. Mais nouvelle par rapport à quoi? Nouvelle par rapport à ce qui s'est passé hier. Nouvelle par rapport à ce que Dieu a fait hier. Et Dieu, et merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait hier, pour toutes les choses qu'on a eues. Merci et alléluia pour le passé. Et quand tu as parlé aujourd'hui de se rappeler toutes les bénédictions que Dieu avait fait dans nos vies, merci Seigneur. Mais ce n'est pas parce que je suis arrivé là avec toutes les bénédictions qui sont derrière moi que je vais m'arrêter. Je m'arrêterai quand je mourrai. Mais tant que je peux marcher, je pars en avant. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il ne nous veut pas statiques. Ne restons pas sur nos habitudes. Quand on dit quelque chose de nouveau, ça veut dire quelque chose d'inhabituel. Inhabituel, ça veut dire qu'il sort des habitudes. Et ce n'est pas parce que ça sort des habitudes que c'est faux. Il faut être sûr que c'est bien la volonté de Dieu, et pour cela, il nous faut aller au torrent de Guérite pour chercher la vérité. Ne nous fossilisons pas, nous allons de l'avant. Tant que si nous sommes là, à la bonne place, nous recevrons la manne spirituelle de Dieu. Combien de réveils ont été étouffés par le légalisme? Oh non, ça ne se fait pas. Ah ben non, moi je prends la place de Dieu, puis ça ne se fait pas. Et puis tout s'éteint. Non, maintenant on y va. On est près de la présence de Dieu. Alors on ne sait pas bien, mais soyons ouverts. Soyons à la bonne place. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes pour son armée, en vue de ce qui va arriver. Et vous sentez bien que ça commence à crocher. Il y a des lois qui essaient de nous empêcher de nous exprimer. Il va y avoir des combats spirituels sous-jacents. Cette sélection se fait suivant des personnes qui entrent dans les choses nouvelles ou restent dans les choses anciennes, qui sont d'accord d'avoir une onction fraîche ou de rester dans l'ancienne, qui sont d'accord de sortir des rangs. Et voyez-vous, j'aime beaucoup ce proverbe. Le proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Si l'éclat ne cesse de croître, mes amis, c'est comme le soleil, il se lève, donc on bouge. Et la lumière augmente. Alors, oui, soyons à l'écoute de notre Seigneur, attentifs, obéissants, courageux, comme Élie, et pour être là où il désire que nous soyons pour recevoir ses révélations et ses bénédictions. Soyons là. Oui, mais soyons aussi réceptifs et brûlants à ce que Dieu a mis de neuf en réserve pour nous, afin que notre lumière ne cesse de croître, brille, illumine, jusqu'au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.